Un petit coup de meringue glacée par François Dompierre pour aller joindre Julien Caillouette, rédacteur en chef chez Franco-Presse. Bonjour, Julien.
Bonjour, Hélène.
En direct ce matin à cette heure-ci pour nous parler d'abord et avant tout du CRTC qui approuve la demande de hausse tarifaire de TV5 Québec-Canada.
Oui, le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes a approuvé cette demande d'augmentation tarifaire-là. Ça va être de 2 cents par abonné au câble qui vont aller à TV5 et TV5 Uni. Le groupe médiatique avait demandé cette hausse-là l'automne dernier. Le CRTC avait initialement reporté l'étude, ce qui avait inquiété TV5. On savait que ça pressait puis on avait peur que ce soit refusé. Finalement, ça vient d'être approuvé la semaine dernière. Je vous rappelle que TV5 Québec-Canada, ils ont le mandat de produire du contenu francophone provenant de la francophonie canadienne, surtout sur la chaîne Uni. Puis la hausse est effective maintenant. TV5 s'attend à avoir environ 2 millions de dollars de plus par année. C'est pas énorme, mais c'est suffisant pour les besoins immédiats. TV5 Québec-Canada avait dû éliminer une quinzaine de postes l'année dernière à cause de la baisse des revenus et de la hausse du coût de production. C'est plus un répit qu'une solution à long terme parce qu'on le sait, le nombre d'abonnés au câble diminue. Donc, TV5 dit qu'ils vont devoir quand même trouver d'autres façons de se financer.
Création d'un groupe de réflexion sur l'Acadie. On en parle dans l'Acadie Nouvelle.
C'est un groupe de 5 citoyens acadiens, dont le sociologue bien connu Joseph-Yvon Thériault, qui invite la population francophone à trouver des pistes de solutions pour revivifier l'Acadie. De leur point de vue, l'heure est grave pour l'Acadie. Ils croient qu'elle s'efface face à l'anglais et qu'il n'y a plus autant les moyens qu'avant pour lutter contre ce phénomène-là. Donc, le groupe a produit un document de réflexion intitulé « Construire la nouvelle Acadie ». La grande question, c'est est-ce que l'Acadie est... qu'est-ce que c'est l'Acadie et comment on peut la sauver? Le groupe propose une définition très inclusive de ce qu'est l'Acadie. Pour eux, c'est un fait, c'est-à-dire c'est une communauté francophone qui vit au Nouveau-Brunswick, qui existe, puis qui a des institutions et une histoire. D'autre part, c'est aussi une lutte pour l'autonomie et l'épanouissement du français dans cette région-là. Et pour sauver l'Acadie, ce qu'eux mettent de l'avant, c'est que les enfants francophones puissent parler en français à la garderie, donc avoir assez de place pour tout le monde, enseigner plus d'Acadie, surtout l'histoire dans les salles de classe, encourager les municipalités francophones et le gouvernement à renforcer la fierté acadienne et obtenir plus de financement pour les artistes, puis demander aux députés d'utiliser plus le français. Les Acadiens peuvent consulter le document sur le site nouvelleacadie.net, répondre à un sondage aussi. On espère utiliser toutes ces réponses-là pour des états généraux de l'Acadie qui vont avoir lieu en juin à Edmonton.
Par ailleurs, Julien, la réforme du programme ontarien des services en autisme montre ses limites.
L'Express qui nous en parle longuement. Il y a 8 ans, le gouvernement Ford, nouvellement arrivé au pouvoir, annonçait réviser le programme de financement pour les services aux personnes autistes. Finalement, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont coupé toute gestion par le gouvernement. Ils ont simplement donné l'argent directement aux parents. Donc, ça revient à eux de trouver les services et de dépenser l'argent qu'ils ont pour leurs enfants. En théorie, donc, les parents peuvent payer pour ces services-là. Et ça a été déjà un peu difficile, cette transition-là, pour les anglophones, mais pour les familles francophones, pour certaines familles francophones, ça a carrément été catastrophique, nous dit le président de la Société franco-ontarienne de l'autisme, Carole Jeunet. Il y avait déjà des déficits de services en français partout en province, surtout dans les régions rurales. Par exemple, M. Jolin parle d'une mère qui lui a dit qu'elle avait droit à 65 000 $ par année à dépenser pour son fils autiste, mais qu'elle arrive à peine à dépenser 25 000 $ tellement elle a de la difficulté à trouver des services adaptés. C'est pas le cas de toutes les familles, on précise. Là, il y en a qui arrivent, qui trouvent des services puis qui peuvent dépenser le montant auquel ils ont droit. Mais pour d'autres, ça a un peu empiré la situation parce que ça a créé aussi du déplacement de services. Les conseils scolaires, de leur côté, font des progrès aussi, mais on le sait, dès que les enfants autistes sortent de l'école, tout service tombe presque à zéro. Puis depuis, on ne sait pas exactement combien de familles ont des difficultés à trouver des services. Il n'y a pas d'études ou de suivi sur cet enjeu-là.
Bon, service, argent, on tourne en rond un peu. Mais il y a quand même des progrès qui se font. L'idée d'une société immobilière pour gérer les infrastructures, Françoise fait son chemin.
Gérer un édifice, ça peut être un fardeau pour les finances puis les ressources humaines d'un organisme. Il n'est pas nécessairement voué à cette tâche-là. C'est pour ça que l'Association communautaire françaisoise avance cette idée-là de créer une société immobilière pour gérer les infrastructures des organismes francophones. Donc, une sorte de bureau central qui appuie les organismes, qui gèrent soit leur édifice ou leur espace pour plusieurs en même temps. Selon l'association, il y a plusieurs espaces francophones qui ont été perdus au fil des années à cause de ce déficit de gestion-là, parfois. Avec le projet de maison de la francophonie qui approche, là, un centre qu'on veut créer pour rassembler plusieurs organismes, ça pourrait bien s'intégrer à ce projet-là. Il y a quand même des petits bémols dans tout ça. Ça prend de l'argent, évidemment, pour financer une structure de ce genre-là. Donc, on se demande d'où ça va venir. Est-ce que ça va être assez abordable aussi pour les organismes? Est-ce que ça va vraiment leur sauver de l'argent plutôt que d'avoir quelqu'un à leur emploi qui fait ça? Ils peuvent quand même s'inspirer de certains exemples. En Alberta, il y a la cité francophone d'Edmonton qui fonctionne. Il y a aussi la cité des Rocheuses à Calgary qui fonctionne et qui a réussi à dégager assez de revenus pour à travers les subventions et leur clientèle. Mais donc, pour la Saskatchewan, ça reste à définir.
Dans le Nunavoie, le coût de l'alimentation pèse lourd sur les ménages du Nunavut.
Pour la première fois depuis 2019, le Bureau de la statistique du Nunavut a évalué le coût moyen d'un panier d'épicerie. On a ciblé un groupe de produits spécifiques, là, on a évalué combien ça coûte. Donc, au Nunavut, en moyenne, c'est environ 200 $, ce qui est 66 $ de plus pour les mêmes produits à Ottawa. On donne des exemples qui peuvent frapper un peu les esprits. Là. Par exemple, un litre de lait au Nunavut peut coûter 8 $. Oh, les barres de chocolat, hein? Les barres de chocolat, c'est 88 $ le kilo et les tomates, près de 20 $ le kilo. Il y a aussi des grandes variations entre les localités du territoire. Là. 200 $, c'est le prix du panier à Iqaluit. Mais à Resolute Bay, ça peut être 165 $. Puis à Toloyuak, ça serait plus autour de 237 $. Donc, 200 $, c'est vraiment une moyenne. Évidemment, le transport affecte beaucoup les prix des denrées au Nunavut. Hein? C'est beaucoup par avion, ce qui est un moyen de transport qui est plus affecté par le coût de l'essence puis les variations de la météo. Puis, évidemment, tout cela a un impact sur la sécurité alimentaire. Hein? Dans les ménages où il y a plusieurs personnes, le coût de l'alimentation peut monter très vite, puis ça peut forcer les familles à faire des choix difficiles.
Ouais. On termine avec une bonne nouvelle pour l'ancienne église Sainte-Marie.
Oui, je vous en avais parlé il y a quelques semaines, mais c'est juste pour vous dire que c'est confirmé. L'Association Sainte-Marie Héritage et Développement a remporté la première place au concours Le Beau Sauvetage. Donc, ça leur donne accès. Mais ils ont remporté avec presque 35 000 votes. Là, j'ai pas pu voir, mais les dernières fois que j'avais regardé, il y avait plus que le double du nombre de votes et la deuxième place. Ça leur donne accès à 50 000 $ qu'ils vont pouvoir utiliser pour commencer à rénover l'ancienne église de Sainte-Marie en Nouvelle-Écosse, qui, je vous le rappelle, et un des plus hauts bâtiments en bois de l'Amérique du Nord.
Merci beaucoup, Julien, pour toutes ces nouvelles. On se retrouve la semaine prochaine.
Ça m'a fait plaisir. Au revoir.